Alors, verset 25. D'ailleurs, qui d'entre vous, en se faisant des soucis, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? J'ai été regardé, ça ressemble à quoi une coudée? C'est à peu près 50 cm. Donc c'est pas. Oui. Donc c'est un peu. Je sais. J'ai lu un peu de tout là-dessus. Il y a ceux qui disent bah, c'est pas beaucoup. C'est ça sur une longueur de sa vie. Et d'autres qui disent il aurait pu aussi choisir de dire un pouce ou voilà, qui serait encore plus petit. Donc je vous avoue que je ne sais pas quel parti prendre sur cette question. Que chacun se fasse son avis.
Surtout appliquer des centimètres du temps.
Oui,
Ça
mais
rime
ceci dit, on a l'habitude de présenter la frise du temps avec un trait.
à distance.
Mais oui, non, c'est juste. Deuxième chose, verset 32, sois sans crainte, petit troupeau. Et le petit troupeau, en fait, c'est une image pastorale hein, qui existe dans l'Ancien Testament, c'est même un classique de l'Ancien Testament. Et on voit que Jésus, là, la reprend à son compte et elle désigne à chaque fois le peuple de Dieu. Ensuite, il est question, bien plus loin, au verset 49, je suis venu porter un feu sur la terre. Le feu, d'un point de vue de la symbolique biblique, c'est un élément qui est très ambivalent. Parce qu'il peut définir à la fois ce qui est de l'ordre de la destruction, donc avec une portée tout à fait négative, mais il peut aussi désigner ce qui est de l'ordre de la purification avec une portée positive. Évidemment, ici, on penche plutôt pour la deuxième idée. Jésus n'est pas venu pour détruire le monde. Et enfin, le baptême, juste après, Jésus dit, je dois recevoir un baptême, quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Il a déjà été baptisé par Jean-Baptiste. Donc quelle est cette histoire de baptême? Et donc à nouveau, on va faire reprendre hein, en grec l'étymologie, baptizein, et ça signifie être immergé. Et en l'occurrence, c'est même être immergé dans la mort. Et ça permet de mieux comprendre, parce que si on remplace baptême par immergé dans la mort, je dois être immergé dans la mort, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce que ce soit accompli? On comprend mieux. On avait déjà défini le baptême quand on avait parlé du baptême de Jésus justement avec Jean-Baptiste, mais là c'est important de le redéfinir. C'était au tout début, on a eu le temps d'oublier. Donc dans ce grand discours que Jésus adresse à ses disciples en présence des foules, il y a aussi, on a vu hein, au verset 41, Saint-Pierre qui prend la parole. Est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien est-ce que c'est pour tout le monde? Il est un petit peu perdu. Et Jésus lui répond, très intéressant, que dire de l'intendant fidèle et censé à qui le maître confiera la charge de son personnel? Quand on sait que Saint-Pierre devient, il est déjà le chef des apôtres, mais aussi le premier pape de l'histoire. Et la question de la distribution de la ration de nourriture, qui nous ramène à ce qu'on avait dit lors de la multiplication des pains et des poissons, il restait 12 paniers, et on avait évoqué le fait que 12 paniers comme 12 apôtres. Et donc, c'est à eux que Jésus avait déjà confié la mission de distribuer le pain et que c'est une mission qui allait durer. Ici, c'est rappelé. Il doit distribuer la ration de nourriture en temps voulu. Mais après, Jésus va tout de suite élargir. Dans tout ce discours, il y a un verset qui est un verset charnière, c'est le verset 31. Cherchez plutôt son royaume et cela vous sera donné de surcroît. Le plutôt, cherchez plutôt son royaume, renvoie à ce que Jésus a décrit juste avant. C'est-à-dire que les hommes se soucient avant tout de pouvoir manger, de pouvoir se vêtir, et en un sens, on peut pas ne pas comprendre, puisque ce sont des besoins vitaux. Donc à partir de ce moment-là, c'est logique. Sauf que Jésus va appeler à la vigilance. Il ne faut pas que ce souci empêche de tourner son regard vers le ciel, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui est maître de la vie. Alors bien sûr, il y a besoin de manger et de se vêtir pour vivre. Mais ça reste le Seigneur qui est le maître de la vie. Donc il ne faut pas se substituer au Seigneur. Il ne faut pas croire parce que uniquement parce qu'on est capable de se vêtir et de se nourrir, on se suffit à soi-même. Le Seigneur est maître de la vie. Donc, à partir de ce moment-là, il y a deux choses qui sont à revoir. D'abord, le rapport des priorités, donc dans nos activités, et la place que l'on accorde à Dieu. Donc si Jésus invite à rechercher le royaume plutôt qu'une réponse aux besoins vitaux qu'on a évoqués, c'est parce que il invite ses disciples, comme il l'a fait hein, lorsqu'il a envoyé en mission les 72 au chapitre 10, il les invite à témoigner de leur foi par l'abandon à la providence divine. Et c'est pour ça qu'il va s'appuyer sur l'exemple des corbeaux et sur l'exemple des lys, en rappelant que l'homme vaut bien plus que les corbeaux, que les lys, que les moineaux même. Il vaut plus que ça. Donc, il n'y a pas besoin de se soucier. Il faut s'abandonner à la providence pour témoigner de sa foi. Et Jésus va même plus loin cette fois-ci. Il ne dit pas simplement qu'il faut s'abandonner comme il avait fait pour les 72, il dit aussi qu'il faut vendre et donner en aumône tout ce que l'on possède. Donc par là, il veut dire que l'abandon, c'est un abandon qui est sans limite à la providence de Dieu. Il y a eu cet abandon qui était quelque peu temporaire pour les 72, le temps de la mission, mais là, c'est un abandon qui est invité à être beaucoup plus important, qui n'a en fait pas de durée, dans le sens où c'est un abandon total. Et maintenant que Jésus a dit qu'il fallait tout vendre, il précise quel est le véritable bien. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc le véritable trésor, c'est en fait le royaume. Et ça tombe bien, parce que, soit sans crainte petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dieu veut donner le royaume aux hommes. Mais pour que les hommes puissent recevoir ce don du royaume, eh bien, il faut qu'ils soient capables de se dépouiller du reste. Parce que ce don est d'une telle ampleur qu'il nécessite d'être la seule et unique préoccupation des disciples. Ça ne veut pas dire renier justement les besoins vitaux, parce que Jésus dit « Non mais ça, le Père sait que vous en avez besoin. » C'est au verset 30. Donc quand je parlais de revoir l'ordre des priorités, c'est là qu'il arrive le renversement. La seule préoccupation, ça doit être le royaume. Donc l'appel à la vigilance qui a été fait se poursuit et il évolue dans une prudence vis-à-vis des richesses, mais aussi dans l'attente de la venue du Fils de l'homme. Jusqu'à présent, on a parlé de la question de la richesse. Mais là, justement, c'est Pierre qui fait le basculement. Il y a besoin d'autre chose. Alors ça commence un petit peu avant Pierre, mais c'est Pierre qui le souligne. Il y a le Fils de l'homme, il y a la venue du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est un titre qu'on a déjà entendu, puisque Jésus se l'est attribué. Il se l'est attribué, chapitre 5, verset 24, lors de la guérison du paralytique. Au chapitre 6, verset 5, quand il dit que le Fils de l'homme, est maître du sabbat. Il le dit aussi au chapitre 7, verset 34, lorsque les foules vont le comparer à Jean le Baptiste. Et là, il va se définir lui-même comme étant le Fils de l'homme. Et puis enfin, au chapitre 9, versets 22 et 26, lors de la confession de foi de Pierre, il laisse entendre qu'il est bien ce Fils de l'homme. Et la dernière fois qu'on l'a entendu, c'était lors du signe de Jonas, donc chapitre 11, verset 30. Donc on voit bien que... Je n'ai pas repris toutes les fois où Jésus parle du Fils de l'homme, juste les fois où le lien est assez clair pour qu'on puisse identifier Jésus au Fils de l'homme. Donc ça revient quand même assez régulièrement. Et ça veut dire que la seule vraie richesse, bah c'est le passage de Jésus au cœur du monde. Parce qu'avec Jésus advient l'avènement du règne de Dieu. Ce dont on avait déjà parlé, notamment avec Marthe et Marie. Et donc, Jésus insiste sur cette réalité dans les versets 54 et 56. On fait un petit bond. C'est pour ça qu'il faut lire en fait l'ensemble du discours, parce que Jésus revient sur des choses qu'il a dites avant. Alors l'autre fois, je vous avais fait un petit tableau pour aider, parce que sinon c'est compliqué à lire. Là, je n'ai pas fait de tableau, mais normalement, ça suffit pour s'y retrouver. Verset 54-56, Jésus dit « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ?» Donc là, il y a deux choses. On a vu qu'il y avait une véritable richesse qui est celle du passage de Jésus au cœur du monde, c'est l'instant présent, c'est ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils devraient être capables de décrypter comme ils décryptent le vent, mais il y a aussi une autre dimension qui est présente, c'est la dimension eschatologique. Et ça, on ne peut pas la comprendre tout de suite, parce qu'on la comprendra quand on arrivera au chapitre 21. Mais quand même, pour bien rentrer dans le texte, je vais vous lire les versets 25 à 28 du chapitre 21. « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Et là, quand on lit en parallèle ces versets avec l'importance d'être un serviteur qui connaît la volonté de son maître et qui reste fidèle même si le maître tarde à venir, on comprend que il est question cette fois-ci de la parousie, c'est-à-dire de la nouvelle venue du Christ. Donc, à cet instant précis du récit, il y a deux événements qui sont en train de se mêler dans le discours de Jésus. La venue du règne de Dieu avec l'incarnation, donc ce qui est en train d'être vécu au moment où Jésus parle, et la parousie, c'est-à-dire la nouvelle venue de Jésus qui arrivera plus tard. Jésus dit que le premier de ces événements, donc l'incarnation, va conduire à la division, paradoxalement, la division au sein même des familles, entre ceux qui vont reconnaître en Jésus le Christ et les autres, donc ça veut dire qu'on reprend le thème de la conversion, entre ceux qui se convertissent et ceux qui ne se convertissent pas, entre ceux qui vont reconnaître que lorsque Jésus passe, le règne de Dieu passe, et ceux qui ne le reconnaîtront pas. Et il y a le second événement, la parousie, qui va conduire, lui, au feu, mais qui n'est pas le feu, qu'on pourrait dire, le feu de la gêne, le feu du tourment, mais qui est le feu de la purification. Et donc c'est pour ça qu'il dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre ». Et si Jésus va donc mêler ces deux réalités, l'une qui est présente, l'autre qui est à venir, eh bien c'est parce que, en fait, elles exigent toutes les deux une même réaction, la conversion. La présence de Dieu sur terre en Jésus-Christ nécessite la conversion, c'est-à-dire être capable de reconnaître que Dieu est présent, et la parousie nécessite une conversion, c'est-à-dire reconnaître que le Christ va venir et qu'il faudra être prêt pour son retour. Et voilà pourquoi est-ce que Jésus, ça peut sembler compliqué, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la cohérence du texte, va mêler les deux choses. Parce qu'en fait, c'est vraiment la question de la conversion qui est au cœur. Et je disais que c'était paradoxalement l'incarnation du Christ crée la division. Je disais paradoxalement parce qu'on sait que celui qu'on appelle le diviseur, c'est justement celui qui s'oppose au Christ, hein, Jésus dans le désert, on l'a vu au début, mais c'est pas Jésus qui souhaite la division en l'occurrence. C'est-à-dire que cette division, elle arrive de fait. Il le sait, parce qu'à partir du moment où il intervient, à partir du moment où il arrive sur terre, la division est créée entre ceux qui reconnaissent et ceux qui ne reconnaissent pas, donc finalement ça reste la liberté de l'homme qui est présente. La liberté de se convertir ou de refuser de se convertir. Mais par contre, il y a un fait qui est là, c'est la présence du Christ.